C'était deux gros morceaux pour le gouvernement caquiste de François Legault, ce projet de loi 21 sur la laïcité de l'État et ce projet de loi 9 sur l'immigration. Ils ont tous les deux été adoptés en fin de semaine. Ça aura nécessité deux baillons et de longues heures au Salon Bleu pour les débats. On va en discuter avec Dominique Vallière. Il est analyste politique et chroniqueur à Que Québec se lève au FM 93. On va le joindre à l'instant. Bonjour Dominique.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien. On se tutoie?
Absolument, tutoyons-nous.
Excellent. Tu as travaillé pendant 8 ans au Parlement, Dominique. Tu as vécu ça des baillons. Comment ça se passe en coulisses au juste? Là, on voyait les gens avec leur lit de camp puis les sleeping bags. Là. Comment ça marche, l'espèce d'horaire d'un baillon, d'une fin de session comme ça?
Ben oui, on avait l'impression qu'on était dans une vente chez La Tulipe ou quelque chose, parce qu'on voyait tous les lits de camp, comme tu dis, puis les matelas gonflables. Écoute, habituellement, un projet de loi, il y a 6 étapes qui mènent à son adoption. Entre le moment, ça c'est la première étape, où le député se lève puis il dit « voici, je dépose mon projet de loi », et le moment du vote final, qui est la 6e et dernière étape. Et ça peut se passer, ces 6 étapes-là, sur... échelonné sur 2 semaines, 2 mois, peu importe, tout dépendamment du projet de loi. Oui. La mesure d'exception, le baillon, fait en sorte que ces débats-là sont ramenés à des périodes d'à peu près 10 ou 12 heures.
Okay.
Donc, ce qu'on a vu en fin de semaine. Fait que ça veut dire que dans ton 12 heures, mettons, là, t'as le dépôt du projet de loi, les commissions, le on vote sur le principe, on fait l'étude détaillée, puis après ça, on revient au Salon Bleu, puis finalement, il y a le lieutenant-gouverneur qui signe. Mm-hmm. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est à ce moment-là que l'opposition se rend compte qu'elle l'opposition. T'as bien beau utiliser toutes les manœuvres que tu peux pas faire bien ouais. plus de temps que le temps qui t'est donné. Fait que le projet de loi, tu sais exactement quand tu t'en vas dans un baillon, comment ça va se terminer. Mmh. Puis, ce qui est particulier, c'est que en fin de session parlementaire, les esprits sont déjà assez échauffés. Tu ouais. viens de passer à travers tes semaines d'intensives. Puis les, mettons que les députés sont peut-être un peu moins cordiaux là à la fin d'une session parlementaire. Et là, tu rajoutes des baillons par-dessus ça. Ça peut expliquer qu'il y en a qui a pété un peu une coche en fin de semaine. Mmh.
Justement, Dominique, les opposants aux deux projets de loi, particulièrement sur celui de la laïcité, ont vraiment accusé la CAQ d'utiliser le baillon pour passer ce projet de loi-là. Mais à partir du moment où c'est un outil dont tu disposes dans ton coffre législatif, là, est-ce qu'on peut vraiment leur lancer la pierre à la CAQ? Parce que ça aurait changé quoi d'avoir 120, 130 heures de consultation si leur idée était déjà faite?
Ben, tu poses la bonne question. À partir du moment où on savait que les libéraux allaient pas bouger de leur position, QS non plus, puis le gouvernement non plus, à quoi bon siéger tout l'été? Parce que ça aurait pu être une possibilité. Hein? Le gouvernement aurait pu dire, nous, la commission qui entend ce projet de loi-là, pourrait siéger pendant tout le mois de juin, tout le mois de juillet, une partie du mois d'août.
Ouais.
Mais à un moment donné, c'est imposer quelque chose à tes députés. Hein? Ils sont pas dans leur comté, ils font pas la tournée des épluchettes de blé d'Inde, ils sont au Parlement.
Ouais.
Mais ça veut aussi dire faire rentrer le staff du Parlement pour que la commission roule. Avec absolument rien en bout de piste pour expliquer ça.
Exact.
Fait que c'est pour ça que le gouvernement a dit, regarde, moi je l'ai, puis de toute façon, il l'avait fait miroiter dès le début, ce qui était, à mon sens, un signal qui est envoyé à la population ouais. en disant, nous, on veut faire un pas là-dessus, puis on va le faire coûte que coûte.
Parce que je voyais Gabriel Nadeau-Dubois, il a fait une belle vidéo en fin de semaine pour expliquer certains baillons qui avaient été employés par le gouvernement libéral. Il y en avait un notamment, je pense oui. que c'était sur la loi des hydrocarbures. Ça avait oui. pris plus de 120 heures avant d'arriver jusqu'au baillon. Et là, on avait adopté la loi finalement en utilisant ce procédé-là. Mais je me disais, OK, si on avait eu une 117e heure d'étude, est-ce qu'il y aurait une chose qu'un député solidaire aurait pu dire à Simon-Jolin Barrette pour qu'il change de quoi? La réponse, c'est non, là.
La réponse, c'est non. Puis, il faut voir aussi que ça dépend du calendrier. Tu sais, la CAQ a été élue en octobre. Il y a eu une petite session là, très, très, très rapide avant les fêtes. Ils sont revenus. Puis là, ils ont commencé à déposer des projets de loi en fonction de leurs priorités, hein, de ce sur quoi ils se sont fait élire,
oui.
mais aussi en fonction de la rédaction par les juristes de l'État de ces projets de loi-là.
Okay.
Donc, à un moment donné, toi, tu envoies ta liste de commandes, puis tu dis, je vais avoir un projet de loi, par exemple, sur le cannabis, je vais avoir un projet de loi sur d'autres choses, puis tu dis, bon, mais t'arrives au 9e ou au 21e, puis ça va être laïcité ou ça va être immigration. Fait que tu reçois ton projet de loi, tu fais les changements que tu veux faire, puis après ça, tu ouvres la commission, tu le déposes, puis t'en parles.
Oui.
Tu sais, est-ce que ça aurait changé quelque chose qu'il dépose il y a six mois pour avoir justement ces 120 heures de commission. Mm-hmm. Je pense pas qu'il y a personne qui aurait bougé d'un iota.
Leur idée était assez faite, là, puis ils sont allés en campagne là-dessus, donc d'avoir changé quelque chose, il y aurait des gens qui auraient dit, qui se seraient sentis peut-être un peu floués par la CAQ suite à la campagne qu'on vient de connaître. Là.
Voilà, mais là, ce qui va être intéressant, si tu me permets, c'est que il y a beaucoup de gens qui disaient, je lisais, j'écoutais ça ce matin, que la game politique autour de ces projets de loi-là est terminée. Maintenant, on s'en va dans le judiciaire parce qu'il va y avoir des contestations, c'est sûr et certain.
C'est déjà annoncé.
C'est déjà annoncé.
Il y a une avocate qui vient de le mentionner. Là, elle va contester au nom d'une étudiante en enseignement portant le voile.
Bon, ben écoute, donc ça s'en vient. Mais là, ça va poser une question tout aussi politique aux députés à Ottawa. Parce que le gouvernement fédéral, s'il estime qu'il y a un groupe de la population qui est particulièrement lésé par un projet de loi qui est déposé par une province. Oui. Donc, si on fait la démonstration ici au Québec que ce seraient des femmes qui seraient touchées parce que, justement, elles n'ont pas accès aux salles de classe pour enseigner, le fédéral pourrait financer la contestation. Donc, on se retrouverait dans une situation où l'argent des contribuables québécois est utilisé pour financer une contestation d'une loi avec laquelle la majorité québécoise est en accord.
OK.
OK. Donc là, c'est la question que doit se poser Justin Trudeau en ce moment. Est-ce qu'on finance ce qui s'en vient? Et si oui, ça va poser une belle question aux autres chefs de parti. Mm-hmm. Est-ce qu'Andrew Scheer va être d'accord avec Justin Trudeau? Est-ce que Jack Meeting va être d'accord avec Justin Trudeau? Alors, le débat politique est loin d'être fini, mais on change de scène. Et en plus, on s'en va en campagne électorale. Ça va sûrement être passionnant.
C'est ça, mais Justin Trudeau a besoin du Québec s'il veut espérer former le prochain gouvernement puis rester au pouvoir. Là, je pense pas qu'il reste embarqué là-dedans. Crois-tu qu'il est assez casse-gueule pour essayer de financer des contestations comme celle-là?
Écoute, d'un côté, tu as tout à fait raison. Il a besoin du Québec pour être élu. D'un autre côté, c'est un peu s'attaquer au legs de son père.
Oui.
Que la loi telle qu'elle a été adoptée en fin de semaine. Alors, il se trouve dans un drôle de conflit où il doit choisir, est-ce que moi je laisse donc ternir la vision que mon père avait du Canada, et où est-ce que je m'en vais donc dans cette contestation-là pour défendre la vision qu'avait mon père. Moi, si je devais te gager $1, je pense qu'il va contester, parce que je pense qu'il va se dire qu'il y a une majorité de gens à Montréal et en périphérie de l'île de Montréal qui vont être d'accord avec lui. Mais là, donc, la question, elle va être posée à Scheer, et Scheer doit, lui, pour avoir des votes autour de Toronto, dire ben oui, on défend tous les droits des minorités, tout ça, mais ce discours-là passera pas au Québec.
C'est ça, en région. Alors, particulièrement, là.
Et en région particulièrement, les gens qui pourraient voter pour lui. Alors, c'est toute une question qui est posée aux chefs de parti fédéraux, hormis le Bloc, qui se pose pas cette question-là. Eux, ils ont rien à faire avec le reste du Canada. Et ils ont déjà dit qu'ils étaient d'accord avec le projet de loi. Oui. Mais donc, pour les trois autres chefs, ça va être une belle question, là.
Puisqu'on parle du projet de loi 21, si on regarde un peu la substance, là, on parle d'une loi 21 plus musclée. Est-ce que c'est juste de dire ça? Parce qu'il est question un peu de l'application du principe. Là, s'il y a des contrevenants, on sait un peu plus ce qui va arriver, Dominique.
Oui, le gouvernement n'avait pas le choix que de déposer ces amendements-là, à mon sens, pour tenter de définir. Mais d'expérience, je te dirais que c'est l'exercice des tribunaux qui va beaucoup plus dire « Bon, mais ça, c'est possible. Ça, vous pouvez pas le faire. Là, vous pouvez pas y aller. » Il y avait des questions qui étaient posées, qui étaient très justes. Moi, je pense que de parler d'une police de la laïcité, c'est d'aller beaucoup trop loin. Mais reste que la question à la base de tout ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer que ce projet de loi-là, ben que cette loi-là maintenant soit appliquée, ça, il n'y a que l'expérience qui va pouvoir le démontrer, puis qu'il y a une ligne juridique qui va être tracée à un moment donné où est-ce qu'on va dire ça, vous êtes dans votre droit, puis là, vous n'êtes pas là.
OK, donc là, on connaît davantage les intentions. Maintenant, dans les faits, comment ça va se déployer, ça reste à voir.
Exactement.
Si on regarde le projet de loi 9 sur l'immigration, il y avait les 18 000 dossiers de candidats qui étaient vraiment au centre des discussions au cours des dernières semaines. Comment ça s'est terminé au juste?
Ben, selon les informations dont je dispose à l'heure actuelle, les 18 000 dossiers vont être transférés dans Arima, donc dans la plateforme qui est souhaitée par le gouvernement pour mieux arrimer donc les gens qui viennent et les besoins du milieu du travail, et on va traiter en priorité des gens qui sont déjà arrivés sur le territoire québécois.
Okay.
Donc, on les flushe pas, on les passe pas dans le shredder, on va donc analyser qu'est-ce qui se passe avec ces dossiers-là en adéquation avec le marché du travail. Essentiellement, ce que le gouvernement a dit pendant l'ensemble des consultations, mais ça va se faire en priorité pour ces 18 000 dossiers-là.
Puis un autre point d'achoppement, c'est la question du test des valeurs. François Legault s'est retrouvé dans l'embarras quelques occasions lorsqu'il a été questionné là-dessus. Est-ce qu'on en sait davantage sur ces tests-là qui seraient soumis aux candidats ou aux immigrants qui arrivent chez nous?
Ben écoute, moi au moment où on se parle, moi j'en sais pas plus. Je sais pas si le gouvernement a décidé qu'il allait préciser ses intentions un petit peu plus tard. Il a toujours été flou, puis avec raison, surtout en campagne électorale, parce qu'il y a d'autres partis qui l'ont dit, des déclarations comme celles qui étaient souhaitées par la coalition Avenir Québec, ça existe déjà. Donc, quelle est la nécessité d'aller plus loin? Il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils ne la voyaient pas. Maintenant, et surtout dans une mesure où ils ont déjà annoncé que les seuils étaient baissés, mais vont être remontés. Oui. Et tu sais, on parle par exemple ici dans la région de Québec, le taux de chômage est quoi, 2,3%. Mm-hmm. On peut pas longtemps se permettre de dire non à des gens. Et surtout dans une mesure où l'espèce de garde-fou que souhaite le gouvernement existe un peu déjà. Je vois pas, en tout cas, j'ai rien vu de plus précis là-dessus. Puis je pense qu'ils mm-hmm. désirent le garder dans le flou un peu.
Excellent. Mais merci beaucoup pour la mise à jour. Dominique, on se reparle bientôt.
Je t'en prie.
Au revoir. Dominique Vallière, il est analyste politique et chroniqueur à Que Québec se lève au FM 93. Paul Raphaël a bien voulu me le prêter pour l'occasion aujourd'hui. J'aime beaucoup l'entendre la fin de semaine. J'étais content de pouvoir lui parler aujourd'hui. Il y a eu un petit accro qu'on a appelé le Jogging Gate en fin de semaine pendant le baillon. C'est François Cormier qui est allé prendre des photos de Simon Jolin-Barrette devant le Parlement. Il était en habit de jogging et il est allé faire un petit tour ses plaines. En plein baillon. Donc, on est en procédure. Il y a des débats à la Chambre. On sait que ça dure à peu près une douzaine d'heures pour chacun des projets de loi. Lui pilote les deux. Donc, c'est 24 heures minimum en Chambre en fin de semaine. Il en a pris quelques minutes pour aller se balader, pour aller faire un peu d'exercice, s'aérer l'esprit. Et ça, ça a pas plu au député libéral Marc Tanguay qui l'a rincé en Chambre. On peut l'écouter.
Où est ce ministre? Il est en train de faire du jogging sur la plaine d'Abraham, Monsieur le Président. C'est scandaleux, c'est arrogant. On doit le dénoncer, Monsieur le Président.
S'il vous plaît, d'abord... S'il vous plaît...
Donc là, c'était le grand fracas, puis on était donc bien insultés de voir qu'il se lève pour aller prendre une marche dehors. Puis
tout ça à partir d'un tweet qui a été fait par un journaliste qui suit des travaux sur la colline.
Ah oui, une couple de photos en hypocrite à travers la fenêtre, puis ça a donné ça en Chambre en fin de semaine. Moi, honnêtement, là, qu'il soit pas là pendant une demi-heure, une heure, je dis pas s'il s'absentait pendant une longue période de temps, là, s'il était allé manger un repas quatre services sur Grande Allée, j'aurais trouvé ça un peu plus ordinaire, mais... de sortir puis de se dire, regarde, ça se peut que je sois pas productif pendant 24 heures au Salon Bleu, là. Je peux-tu prendre un break deux secondes? Puis est-ce que c'est le seul? Je comprends que c'est lui qui pilotait les deux dossiers puis qu'il ouais. devait être là la majorité du temps. Mais de voir qu'un député prend une pause pendant cette fin de semaine-là, alors que dans le cas du projet de loi, je pense que c'est le projet de loi 9 qu'on a voté à 4 heures du matin, ben, il faut pas être fou non plus puis penser que chaque minute va être productive, là. À la limite, il est peut-être revenu puis il est encore plus cher. Parce que justement, ça y a permis de s'oxygéner un peu la tête, là. Donc, j'ai pas compris le tollé. C'est sûr que frapper sur le gouvernement quand t'es dans l'opposition puis que t'es contre le projet de loi, toujours payant.
Et c'est l'image que ça peut envoyer d'un élu insouciant.
Il prend ça à la légère.
Ben, c'est ça.
Il nous regarde de haut, il nous méprise et tout.
C'est ça.
Moi, ça m'a pas dérangé outre mesure, mais quand même, ça a fait...